Watch this. Yeah, yeah, yeah.
Cette soirée poésie qui n'a pas encore de nom, et Moussine voulait nous lire un passage, il me semble.
En fait, l'idée c'est qu'on lise du coup le poème.
L'azur, pas chaud.
Moussine il va lire le poème, l'azur, et puis après je me dis qu'on peut lire, tu vois, strophe après strophe pour penser, s'arrêter sur ce qui est dit.
Et on peut pas du tout improviser ce soir, on n'a pas le droit.
Si. Bah. Si on parle strophe après strophe, on va improviser ce qu'on raconte strophe après strophe.
On a le droit de le lire comme on veut, en fait.
Oui.
Je
vais le lire une fois.
Si je veux, je lis un mot, puis après j'arrête et je...
Moi, je crois que...
Je lis trois mots, puis je fais une danse et je lis trois mots.
Tu fais une gigue enfin, entre-temps, ouais. C'est possible.
Ouais, je veux bien.
On fait comme on veut. On lit pas de manière scolaire. Ouais. Rassurez-moi.
En fait, je pense que... Je vais lire. Je vais faire une lecture. Voilà.
Je fais une lecture et puis déjà...
Et puis on peut se dire déjà d'emblée ce qu'on en pense, comme ça, de manière globale. Et puis après, peut-être détailler dans...
Ceux qui veulent y recourir, il est là.
En fait, c'est un cours de poésie.
Je pense, après, je...
Mais c'est pas un cours, parce que...
J'ai pas vraiment de
personne ne peut...
C'est un partage, on essaye de partager,
partage,
mais autour d'un objet commun.
Ok.
Un objet commun, qui est ce poème qui, moi, m'a énormément, énormément touché. Je pense que c'est un des poèmes qui m'a le plus touché depuis des années et des années. Et qui se trouve, quand je l'ai partagé avec Moussine, il m'a fait le plaisir de sentir aussi touché que ça, ce qui est venu, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à la nécessité groupale pour l'investissement objectal. La poésie, c'est l'association du son et du sens. Et que si la poésie, c'est l'association du son et du sens, ça se prête à musique. Entre ces deux points que se situe la poésie. C'est-à-dire entre cette tension très forte entre le fait de mettre des mandales au vers, hein, comme disait Ferré, pour qu'ils viennent rentrer dans un carcan beaucoup trop rigide, et tout à l'inverse, le fait de vraiment être là à chercher à mener le verbe à sa condensation absolue, à son équivoque qui voudrait dire les choses les plus essentielles. C'est vraiment dans un point de tension entre ces deux recherches, et vraiment dans la tension entre ces deux recherches, et pas dans une de ces deux recherches, que se situe la poésie, à mon avis.
Oui, mais de toute façon, je pense qu'il y a forcément besoin de cette espèce d'antagonisme, en fait, de force opposée qui se distende, en tout cas, qui s'entrouche à côté, t'as plutôt fait raison là-dessus.
L'azur.
Allez, l'azur,
let's go.
Non, mais je veux dire que ça dépend comment on va les ça. Après, on va voilà. Bon, vas-y, finis.
Si c'est la nuit, c'est la nuit. Si c'est le jour, c'est le jour. La terre tourne.
Justement, il parle des deux.
La terre tourne.
Juste le salon.
Vas-y, aussi.
Non, mais est-ce qu'après, une question qu'il faudrait poser, justement, on en reviendra. C'est au sujet du slam, justement. On y reviendra, mais c'est une question pertinente et j'espère m'en souvenir encore tout à l'heure.
De l'éternel azur, la sereine ironie.
T'as commencé trop tôt, je
crois. Accable.
Prends le temps.
Belle de la main, comme les fleurs.
Parce que j'aimerais bien mettre dedans. Est-ce que tu peux faire une petite traduction peux...
L'azur de Stéphane.
Alors, merci.
Qui est né le 18 mars 1842. Je suis né un 17 mars. Il paraît même qu'il était médiocre à l'école. Encore un point commun avec moi.
Ah oui.
Il était poète, reconnu.
Introduction. Mohamed Bellarmé.
Je suis Bellarmé, moi.
Okay. La traduction voilà, te suffit.
Ouais.
De l'éternel azur, la sereine ironie, accable, belle, indolemment comme les fleurs, le poète impuissant qui maudit son génie à travers un désert stérile de douleur. Fuyant, les yeux fermés, je le sens qui regarde avec l'intensité d'un remords atterrant mon âme vide. Où fuir? Et quelle nuit hagarde jeter, lambeau, jeter sur ce mépris navrant? Brouillard, montez. Versez vos cendres monotones avec de longs haillons de brume dans les cieux que noiera le marais livide des automnes et bâtissez un grand plafond silencieux. Et toi, sors des étangs létéens et ramasse en t'en venant la vase et les pâles roseaux chers ennuis pour boucher d'une main jamais lasse les grands troubles que font méchamment les oiseaux. Encore que sans répit, les tristes cheminées fument, et que de suie une errante prison éteigne dans l'horreur de ses noires traînées, le soleil se mourant jaunâtre à l'horizon. Le ciel est mort. Vers toi j'accours. Donne, ô matière, l'oubli de l'idéal cruel et du péché à ce martyr qui vient partager la litière où le bétail heureux des hommes est couché. Car j'y veux, puisque enfin ma cervelle, vidée comme le pot de phare gisant au pied d'un mur, n'a plus l'art d'attifer la sanglotante idée lugubrement bâillée vers un trépas obscur. En vain. L'azur triomphe, et je l'entends qui chante dans les cloches. Mon âme, il se fait voix pour plus nous faire peur avec sa victoire méchante, et du métal vivant sort en bleus angélus. Il roule par la brume, ancien et traverse ta native agonie ainsi qu'un glaive sûr, ou fuir dans la révolte inutile et perverse. Je suis hanté. L'azur, 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 l'azur.
C'est une grande question pour moi d'ailleurs. Comment lire ce dernier vers ? Je trouve ça très difficile.
Ah oui, je
me suis bien dit. Mais il y a des choix qui, moi, me posent vraiment question sur comment énoncer ce dernier vers. Parce que, par exemple, au tout début, moi, quand j'essayais de dire l'azur, 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 de le condenser pour que ça ait le même rythme, je m'en crache dessus, vous voyez. Pour essayer de garder le même rythme que sur les autres vers. Et puis je me suis mis petit à petit, comme tu l'as fait là, à les séparer, même si ça fait un grand décalage par rapport au reste de la lecture.
Oui. Parce que toi, tu lisais plus rapidement, du coup. Tu lisais l'azur, l'azur, l'azur.
Au début, moi, j'étais vraiment dans cette rythmicité justement des alexandrins, comme ça, là, à essayer de tenir vers par vers.
En même temps, c'est intéressant aussi parce que, en fait, c'est intéressant la question de la rythmicité, parce que. Là, je viens de penser. Enfin, finalement, si tu dis l'azur, 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 ça renvoie à un truc contraire à l'azur, l'azur, l'azur. Ça renvoie à des choses contraires. C'est-à-dire, l'azur, l'azur, c'est-à-dire, je cours après, tu vois. Et alors, l'azur, je vois m'éloigner. Il s'éloigne de moi. Tu vois. Et donc, du coup, la question du rythme, elle est essentielle. Oui. Effectivement, la question de la lecture.
Et je pense qu'il s'éloigne de lui, c'est-à-dire que l'azur, il le regrette.
L'azur, il y a presque un dépit, quoi.
Moi, quand pour l'histoire,
parce que Mallarmé prend pas du tout l'azur comme Moussine le prend.
Je connais pas trop Mallarmé, mais moi, Moussine, quand il est revenu de stage, il m'a lu, il m'a dit, écoute, je vais te le lire, tu vas me dire ce que tu en ressens. Donc la première lecture, j'ai l'impression qu'il est en train de parler de qu'il est piégé entre ciel et terre. Dans sa souffrance, dans quelque chose qui contemple, qui peut être cet azur qui est la métaphore en fait de son bien-être, de son bonheur, de quelque chose, d'une paix en lui à laquelle il ne peut pas accéder parce qu'il a trop conscience du réel, il a trop conscience de ce qu'est la réalité, le réel, etc. et qu'il est malgré lui dans le réel. Et qu'il a quand même une contemplation de ce bonheur, peut-être qu'il a déjà rencontré, et à un moment donné dans son existence, et qu'il n'arrive plus à attraper, ou alors que ça a toujours été seulement un fantasme pour lui. Mais il souffre de comprendre beaucoup trop de choses, il souffre de réaliser, de voir ce que les autres ne voient pas, dans ce qu'il dit, enfin, de ce qu'on en comprend. Quand il dit le bétail heureux,
des hommes.
Moi, dans bétail, j'entends le troupeau, j'entends, tu vois, l'homme qui ne se rend pas compte et qui est l'imbécile heureux, tu vois. Enfin, je veux dire, qui suit le groupe et que ça lui convient et qu'il est bien dans son confort et que ça lui va. Et lui, il ne fait pas partie de ces hommes. Et en même temps, il dit, enfin, il le dit pas, mais en même temps, on entend, en même temps, je suis comme eux, quoi, parce que j'arrive pas à être là-haut. Donc, je suis comme ça, mais en même temps je suis pas heureux, donc elle est où ma place, elle est nulle part ma place, elle est ce poète, c'est le début, il me dit
un poète impuissant,
le poète impuissant, etc. Il est dans cette place de poète impuissant qui maudit son génie. Son génie de presque voir derrière le brouillard, de rêver l'azur mais de ne jamais le toucher, qui maudit le fait d'éprouver ce qui sait vrai, et il ne peut rien en faire de ça. C'est-à-dire qu'il subit, il subit l'idée de vivre avec cette clairvoyance. Et qu'il aimerait, malgré ce qu'il est, il aimerait atteindre l'azur. Et en fait, il est en train de parler de ce contraste avec cette clairvoyance, l'azur. Parce que moi, dans la lecture que moi j'en fais de son azur, c'est quelque chose de l'ordre du bonheur, de la paix.